Benoît Brulé est avec nous. Salut Benoît.
Salut Jérémy.
Bruno Gervais est là également. Salut Bruno.
Salut Jérémy, salut Benoît.
Salut Bruno.
Messieurs, dans un premier temps, on n'a pas eu la chance de se parler suite à cette nouvelle voulant que Shea Weber soit blessé, saison compromise l'an prochain, possiblement. Là, il y en a certains qui vont jusqu'à une fin de carrière. Dans un premier temps, Benoît, je commence avec toi. Ta réaction quand tu as appris cette nouvelle, comment tu as réagi?
Ben, pas surpris. Du nombre de blessures qu'il y avait. On savait qu'il y avait une blessure à une cheville qui l'ennuyait. La blessure au genou, je ne le savais pas. La blessure au pouce, on le savait aussi. Puis c'est un gars qui... quand je dis que je suis pas surpris, c'est que, tu sais, quand tu connais l'homme puis de la façon que ce gars-là se comporte pour s'assurer de jouer malgré les blessures, ben, à un certain moment donné, ton corps vient user. Puis je pense qu'il a tout donné ce qu'il avait à donner en séries éliminatoires. Probablement que en temps normal, il aurait pas dû jouer. Puis juste de le voir au banc, j'en ai parlé un peu cette semaine avec Jean-Luc Mongrain, c'est juste de le voir, les larmes à l'œil à la fin du match, là, ouais. Tu sais, lui, il savait exactement peut-être qu'est-ce qui s'en venait, là. Peut-être une fin de carrière ou une saison complète manquée pour se remettre. Fait que, non, je suis pas surpris de ça parce que c'est un gars qui vient pour jouer. Il va laisser un héritage très, très solide aux joueurs qui sont en place présentement. Mais il y a un problème quand même pour moi qui est majeur. Je sais que c'est peut-être pas le sujet qu'on veut parler, mais il y a un problème pour moi qui est majeur à travers la Ligue nationale. Je pense que les propriétaires, l'association des joueurs, les DG, les joueurs, les coachs, tout le monde faut qu'ils se parlent parce que c'est pas normal que tu sais, tu regardes le match 56, puis tu regardes le match numéro 1 des séries, puis là tu te dis bon, c'est pas la même ligue là, qu'est-ce qui s'est passé? OK, l'intensité, ça je suis d'accord avec ça. Mais se rappeler à qui mieux, puis à se donner des coups de bâton, puis tiens, le double échec de Mayfield qui a brisé les côtes à Kucherov, puis des coups qui sont donnés durant les séries, pour moi, je trouve ça inacceptable. Tu sais, ton produit, il faut que tu le protèges, puis je pense que le produit n'est pas protégé présentement.
Ouais, mais chez Weber est un de ceux qui s'en donne à cœur joie dans le double échec, là.
Oh oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est moi, là, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que tu payes des gars 9, 10, 11, 12 millions par année, tu les empêches de s'exprimer sur la glace en séries éliminatoires, alors qu'en saison régulière, c'est tes meilleurs joueurs. Okay. Mais là, on arrive en série, puis on change complètement les règlements, puis quand tu te frappes comme ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui va casser, là, il y a quelque chose qui va céder. C'est exactement ce qu'on voit, là, puis là, après ça, ben, c'est ton seuil de douleur. Ce que tu es prêt à faire pour t'assurer comme joueur que tu vas continuer à aider ton club, qui va faire en sorte que tu vas être dans l'alignement ou pas. Il y a des gars qui sont pas capables de le faire, ouais. Il y en a d'autres qui sont capables de le faire, mais tu sais, c'est un sérieux problème. Moi, là...
Non, tu protèges pas tes vedettes, t'as raison là-dessus, Benoît.
Tu sais, pas voir Austin Matthews et Marner être capable de performer parce qu'on donne l'opportunité à des joueurs moins talentueux de jouer un style plus robuste, plus défensif. Moi, ça me rentre pas dans la tête, là. Tu sais, ça me rentre pas dans la tête du tout.
En tout cas, il y a quelques partisans du Canadien qui, eux, ont trouvé ça bien correct, mais je comprends de poser
pas
la question.
En général, là, tu sais,
je comprends définitivement.
Crosby, ça pourrait être n'importe qui à travers la Ligue. Tu sais, à un moment donné, comme propriétaire, là, t'investis des dizaines de milliers de millions de dollars sur tes joueurs, puis tu laisses la Ligue gérer ça comme ça. Moi, c'est pour moi, là, c'est inconcevable.
OK, allons du côté de Bruno Gervais, qui était toujours là, Bruno.
Toujours, c'est très bon.
Excuse-moi, Bruno. Écoute, Bruno, réagis sur Serge Weber pour débuter.
Ben, c'est pour l'avoir vécu d'une façon, puis l'avoir vu, Ben, même chose, je sais qu'il l'a vécu, qu'il l'a vu. Un moment donné, tu protèges ton corps, puis il y a des moments que tu t'essaies de prendre, et c'est très difficile d'essayer de synchroniser la réhabilitation, de vraiment prendre soin de certaines blessures, et de récupérer comme tu le devrais, parce que tu es un athlète professionnel, puis tu es là pour performer, puis tu essaies de revenir par tous les moyens. Puis des fois, là, c'est comme si tu mettais ça sur la carte de crédit. Puis il y a un moment donné, vient le bill, puis là, tu commences à avoir pas mal d'intérêt, puis il y a des injections, il y a des façons de pouvoir t'aider à continuer une saison, mais que tu ne peux pas répéter et répéter. Et plus la carrière s'allonge, et plus la carrière est intense, puis est robuste, plus tu vas être hypothéqué comme ça. Fait que, un moment donné, quand tu arrives à court de moyens, puis je ne sais pas, là, moi, je vois ça vraiment de l'extérieur, mais pour un gars comme Weber qui arrive à un point où, wow, ça prend plus juste une saison morte normale pour être capable de revenir. Il y a eu trop, il a trop hypothéqué les parties de son corps. Il y a ceux-là qui vont avoir besoin d'opérations. Il y a ceux-là qui, vont-ils vraiment revenir à un certain niveau? Puis là, tu te retrouves devant l'espèce de débat. faut que tu penses à ta vie après. Quand tu es un joueur de hockey, là, tu penses juste à la prochaine saison, au prochain match, à ça. Tu ne te projettes pas plus loin que ça. Fait que là, il est rendu à un point où, wow, si tu vas avoir une qualité de vie après, si tu veux être capable. Puis je dis pas ça, là, que, je dis pas que c'est son cas, mais des athlètes professionnels arrivent à mener à cette étape-là. Puis est-ce que c'est ça que chez Weber vient de frapper? Est-ce que c'est ça qui vient d'arriver à chez Weber? Je ne sais pas, mais ça, les signes pointent dans cette direction-là. Et c'est là que ça devient difficile pour un athlète d'essayer de prendre la bonne décision pour son corps. Il faut savoir écouter le cœur ou la tête, des fois, d'essayer de raisonner. Mais c'est pas évident. Je souhaite juste un prompt rétablissement puis que les choses se placent pour lui puis qu'il y a une qualité de vie après tout ça.
OK.
Je peux-tu réenchérir là-dessus? Parce que le point de Bruno est tellement bon. Là. Dans un... Puis Bruno l'a vécu, là, même en temps normal, là, en temps normal, disons que tu as une séquence de 4 matchs en 16 soirs, là, je l'ai vécu, moi, puis là-dedans, tu as une séquence de 2 matchs en 2 soirs, là, puis il faut que tu t'entraînes. Là. Tu joues un match physique, disons, contre les rivaux, là, les Bruins de Boston dans mes années, les Nordiques de Québec, là, puis c'était physique, ça se rappelle. Tu n'es même pas blessé pour pas être capable de participer à l'entraînement. Là. Je te dis, Jérémy, tu sautes sur la glace le lendemain, bon, c'est pas aussi pire probablement que des joueurs de la NFL, là, mais tu as mal partout. Tu as mal partout. Tu te lèves le matin, tu te dis « oi, oi, oi ». Puis là, tu t'en vas, tu sautes sur la glace, il faut que tu t'entraînes. Tu fais ton entraînement. Les 15 premières minutes, là, c'est pénible. Puis les traitements avant, les traitements après, là, puis là, tu n'as même pas une blessure qui va t'empêcher de jouer. C'est juste les bobos normaux que tu as vécu dans un match très, très physique ou des matchs physiques dans une semaine de hockey. Imagine-toi quand tu es blessé. Puis il faut que tu fasses injecter parce que c'est probablement ce qui est arrivé à chez Weber durant les séries. À chaque match, tu sais, le corps, à un moment donné, là, ça fait mal, là, puis tu peux plus continuer. Tu peux plus continuer à vivre de cette façon-là comme athlète, dire, hey, je peux pas passer à travers ça encore un autre 6 mois, un autre 8 mois.
C'est là.
On va te prendre loin encore en série. Écoute, en temps normal, je peux te le dire, je l'ai vécu, là. Tu te lèves le lendemain, tu te dis, tabarnouche, on dirait que je suis un 10 roues qui m'a passé dessus, mais écoute, j'ai pas de séparation d'épaule, j'ai rien, là. J'ai pas une fracture d'une cheville ou d'un doigt. T'as mal juste en temps normal. Imagine-toi quand t'es blessé.
Non, ça, c'est là qu'on voit comment ce gars-là est un guerrier. Mais messieurs, là, ce que j'entends, c'est vous, les athlètes, les gars qui avaient joué dans la Ligue nationale de hockey, puis je pense que ça rejoint, j'en suis convaincu, ce que vit chez Weber, mais je vais prendre ça d'un côté qui est plus détaché, tout ça, vu de l'extérieur. C'est 24-25 minutes de temps de jeu qu'on doit combler au retour du hockey au mois d'octobre prochain, parce que chez Weber ne sera peut-être pas là pendant la saison. On ne sait pas s'il sera là après, mais il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là pendant la saison. Comment on comble ces 24-25 minutes de jeu-là? Qu'est-ce que Marc Bergevin doit faire pour ramener quand même ce jeu de qualité de la part de chez Weber qui affrontait les meilleurs trios adverses? Bruno, de ton côté, comment on fait pour combler ces 24-25 minutes?
Et Pelay fait la ligne au Costco. Je ne sais pas s'il y a de quoi là, mais ça ne sera pas facile, surtout de cette qualité-là, malgré les hauts et les bas pendant la saison. C'est sûr qu'on l'a vu dans le passé. Quand Weber n'est pas là, Petrie a été capable de lever son niveau de jeu. Mais là, tu parles d'une saison complète. Puis d'une saison complète après une espèce de tornade, de bulle, d'arrêter de jouer, de recommencer, de saison écourtée, très condensée. Ça n'a pas été évident pour les gars. Puis là, c'est une saison morte, écourtée, pour reprendre une saison. Ça va être un début de saison difficile l'année prochaine, selon moi. Puis tu vas avoir des gars qui vont vouloir qu'ils lèvent. Mais de là, il y a des joueurs qui vont tomber libres. Montréal attire des yeux de toutes sortes de façons. Là, il y a plein d'équipes qui veulent venir arracher des morceaux qui ont rendu le Canadien, qui ont donné du succès au Canadien. Mais il y a des gars qui tombent libres, qui regardent, qui veulent se trouver un endroit où ils veulent gagner. Puis là, ils voient le noyau à Montréal. Peut-être qu'ils peuvent être intéressés ici. Fait que tu as une façon de combler ça. Est-ce que Fleury va être prêt à prendre le prochain pas comme défenseur et venir combler en troisième paire à droite pour essayer de monter ça?
OK, bien Benoît, est-ce qu'il faut regarder du côté d'un Seth Jones? Faut-tu regarder du côté de Dougie Hamilton? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben écoute, c'est sûr que là, ben, je sais que ça va faire partie des dossiers qu'on va parler. Là. Il y a le dossier Jonathan Drouin aussi. Là, dans le fond, s'il ne joue pas de la saison, là, tu vas être capable d'économiser sur la masse salariale beaucoup. Et il y a Jonathan, ben, on verra. Là, je ne veux pas trop parler de ça, parce qu'on verra comment sa santé va, comment ça va se dérouler pour lui durant la saison morte.
Là, mais attends, là, c'est parce que là, il y a des décisions à prendre, parce que demain, il faut que le Canadien donne une liste de protection, ou ça se peut que son nom soit pas protégé, ou ça se peut qu'il se passe quelque chose.
Je pense pas. Moi, je pense pas qu'il va être protégé. Là. Je vois pas pourquoi. Là.
Exactement. Fait que donc, il va falloir commencer à en parler un peu. Mais dans le cas de chez Weber, c'est 7 857 000 $143 précisément là, pour
le problème
ça.
Avec Seth Jones, là, je suis d'accord avec toi. Seth Jones, c'est sûr que c'est la solution, mais il veut-tu venir à Montréal? Il veut-tu rester longtemps à Montréal? Tu sais, je suis d'accord avec Bruno. Moi, je pense aussi que la façon que le Canadien s'est comporté cette année, même s'ils ont eu des hauts et des bas en saison régulière, en série, ils seront quand même rendus dans une finale de Coupe Stanley. Puis il y a des jeunes qui, tu sais, il y a des vétérans, puis il y a des jeunes, puis des jeunes vétérans présentement qui te donnent peut-être l'opportunité de continuer à grandir comme équipe, puis peut-être un jour espérer remporter la Coupe Stanley. Mais tu sais, dans le cas de Seth Jones, il reste une saison. Fait que c'est une transaction que tu dois faire, mais c'est un peu à la Patcherity. Tu fais cette transaction-là, mais il faut qu'il soit signé. Là. Ou Mark Stone, c'est la même chose. Tu sais, 15 minutes après, le contrat est signé. Il s'est entendu avant de faire la transaction que Seth Jones, tu le signes à long terme puis tu le gardes avec la formation. Parce qu'aller chercher Seth Jones de Columbus, ça va coûter les yeux de la tête. Tu sais, c'en est un, lui, c'est pas 22-23. Là. Présentement, lui, c'est 28-29. Il n'y a pas de problème avec ça, Seth Jones. Tu changes complètement la dynamique de ton club. Sauf que le prêt payé puis la décision dans le cas de Seth Jones, il veut-tu venir jouer à Montréal à long terme? C'est ça, tu sais, il y a Nick Leddy, c'est un autre qui est disponible, mais c'est pas un droitier, c'est un gaucher, Nick Leddy. Trouver un droitier qui va venir remplacer chez Weber, ça va être très, très difficile. Fait que c'est en comité. Puis là, en comité, ben, tu sais comme moi qu'en comité, c'est tes 4, 5, 6, 7, 7e défenseurs. Ils seront jamais de la trempe de chez Weber. Fait que c'est comme ça que tu devras naviguer. Tu sais, tu peux aller chercher un vétéran qui peut t'aider à gauche et à droite pour une saison, deux saisons. Mais remplacer chez Weber, c'est pratiquement impossible, à moins là, vraiment que Seth Jones devrait venir jouer à Montréal.
Bruno, toi, as-tu une solution qu'on puisse appeler le Canadien pour donner nos explications?
Ben, moi, ce que je dis ça comme ça, ça fait quelques jours que j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai patiné avec les mini-gaulois des 2013. Ça a bien été. Fait que peut-être là, ça serait une solution. Sinon, non, c'est pas évident. Puis comme Benoît disait, tu regardes à travers la ligue, puis il y a des joueurs, il y a quelques joueurs qui sont intéressants. Tu as mentionné Doug Hamilton, des gars qui tombent libres. Tu as un David Savard qui a gagné la coupe avec le Lightning, qui pourrait amener un certain élément. Il était surtout là, des avantages numériques, une certaine robustesse. Ça peut prendre quelques minutes, mais c'est pas les 25 minutes à chez Weber. Ça va être de quoi de temporaire. T'sais, tu ne trouves pas un Weber comme ça sur une tablette qui traîne puis tu l'amènes dans ton équipe. Puis Benoît a raison, ça va être par comité. Tu en as d'autres qui sont là, tu en as trois que selon moi que tu protèges, les Petrie, Edmondson, Chiarot, qui continuent, qui gardent cette espèce de leg-là de comment la défensive du Canadien va jouer, qui amène un certain élément. Puis tu te crois, dans ta façon de combler ça, tu peux peut-être aller aider un peu le côté offensif à tout ça, puis laisser le travail défensif, d'être imposant, le désavantage numérique, plus au Petrie, Edmondson, Chiarot. Puis là, tu peux aller chercher une dynamique différente aussi pour ta défensive.
Puis, tu sais, Dougie Hamilton, là, Jérémy, moi, je l'aime, là, mais c'est Petrie, meilleur offensivement, peut-être que Petrie, moins bon défensivement. Fait que, tu sais, ça vient pas régler ton problème de chez Weber. C'est juste que tu vas te chercher un gars qui est capable de jouer des minutes, mais qui va peut-être être capable de gérer ton jeu de puissance. On en aurait besoin d'un gars pour venir jouer sur la première vague en avantage numérique. Je le prendrais ce côté-là. Mais tu sais, Dougie Hamilton ne peut pas affronter meilleur trio soir après soir après soir. Là. C'est Jeff Petrie qui va être obligé de faire ce travail-là. Puis comme deuxième défenseur, c'est ça. Mais là, tu sais, on parle beaucoup de chez Weber, mais il y a tellement de points d'interrogation. Tu sais, Armia n'a pas signé. On ne sait pas ce qui va se passer avec Drouin. Tatar est parti. Puis Dano, on ne sait pas s'il va être signé. Fait que l'équipe va être complètement différente l'année prochaine. Là. Complètement, complètement différente. Là.
OK. Écoute, tu parles de Philippe Dano. Puis Bruno, je vais avec toi. Penses-tu que Dano va tester le marché le 28 juillet?
Bien, là, il y a toute l'espèce de conversation avant. Puis ça va arriver, surtout dans un dossier comme celui de Philippe Dano. C'est délicat. Marc Bergevin a déjà des gros dossiers sur la table, où il y a des gros contrats, je veux dire, sur la table, ils sont là pour plusieurs années, fait que tu peux pas te menotter. Avec ce que Philippe Dano a fait pour le Canadien dans les dernières années, lui aussi est comme à croiser des chemins où, dans le but, là, c'est que tu payes un joueur pour ce qu'il va faire. Puis là, tu payes Philippe Dano pour ce qu'il a fait en certaines parties, puis tu t'espères qu'il va pouvoir t'en donner encore longtemps. La conversation, tu sais, ce qui est sorti, c'est ben oui, on risque de le laisser aller tester le marché. Mais ça, c'est assez de semer quelque chose dans la tête du joueur. Moi, j'ai l'impression que les deux parties vont s'entendre. Je serais surpris que ça soit aussi élevé que ce qu'on avait entendu du 30 millions sur 6 ans. Mm-hmm. Quand tu compares Jean-Gabriel Pageot, Jean-Gabriel a connu des séries exceptionnelles, peut-être juste à la fin contre le Lightning, que ça a été moins bon, puis il a frappé une grosse machine. Mais il y a un élément offensif un peu plus élevé que celui de Philippe. Philippe est reconnu à travers la Ligue, puis là, je pense que le monde le réalise à quel point il est dur à jouer contre. Mais dans un contrat, dans l'espèce de dynamique d'équipe que tu veux faire, tu as besoin qu'il t'amène quelque chose offensivement. Mm-hmm. Puis il y a une grande valeur ici à Montréal parce que c'est un Québécois de la place, un joueur de rôle. Fait que c'est certain. Est-ce que, des fois, c'est un gros risque à prendre, mais tu peux voir, est-ce que c'est peut-être que sa valeur est un peu plus haute à Montréal qu'ailleurs, à cause que c'est un Québécois ici. Mais dans le meilleur des deux mondes, tu te rends pas là, puis que Philippe embarque et le Canadien lui donne son dû, mais que Philippe embarque dans un « Hey, je vais avoir, moi, mon contrat, ma stabilité, mais je viens pas tout ramasser le restant de la tarte. Il faut qu'il y ait quand même une équipe à bâtir, à continuer de bâtir. »
Benoît, tu penses-tu que Philippe Dano va tester le marché le 28?
J'ai aucune idée. Je sais pas comment ça va se passer, là. Tu sais, l'offre de contrat qui est refusée, je suis pas convaincu qu'elle est à la table présentement. Puis je suis un peu d'accord avec ce que Bruno a dit. Si je regardais encore ses chiffres, sans Philippe Dano, le Canadien ne sera pas en finale de la Coupe Stanley. Mais il t'a donné 4 points en 22 matchs. Fait que c'est un gars qui joue beaucoup de minutes, importantes, mais offensivement, il ne te donne rien. Fait que c'est là, c'est ça. Puis après ça, c'est les années. L'argent, les années. Tu prends-tu un petit peu plus d'argent? Un petit peu moins d'argent, puis un peu plus de sécurité. Est-ce qu'on est capable de faire ça du côté du Canadien? Est-ce qu'on veut s'embarquer dans cette situation-là? Ça reste à voir, mais je pense que c'est la seule façon de s'entendre. Je suis pas convaincu qu'on va le payer très, très cher pour moins d'années. En tout cas, peut-être que je me trompe, peut-être que je me donne un
même. On n'ira pas dans le 5,5, mettons, pour 4 ans ou quelque chose comme ça, là.
Je penserais pas, mais tu sais, il reste que Philippe, présentement, est dans une très bonne position. Après le match numéro 4 contre Toronto, je ne suis pas convaincu qu'il était dans une bonne position. Mais après le match numéro 5 contre Tampa, il est dans une bonne position.
OK, attends, bonne position, mais meilleure position que 5 millions par année pour 6 ans?
Non, mais il y a peut-être un club sur le marché, si jamais il teste le marché, qui va lui donner ses années. Peut-être que le Canadien, il va. Peut-être que. On n'est pas dans les négociations. Le problème, c'est l'argent pour l'offensive qu'il te donne. Défensivement, il n'a pas de problème.
Mais à 5 millions, je trouve que c'est déjà pas pire. Puis,
je pense qu'on n'est même pas là, là.
Non, je sais, mais je reviens juste. Puis j'ai le goût de savoir, vous savez comment ça marche. Vous avez eu des agents, là, mais je veux pas dire qu'ils l'ont mal conseillé. Mais quand tu as 5 ans pour 5 millions par année pour 6 ans, ça, on saute dessus puis signe ça.
Moi, je pense qu'il était mal conseillé, c'est qu'il y a un flat cap qui s'en vient pour les deux, trois prochaines années.
Ouais.
Parce que, tu sais, dans un monde normal où le plafond aurait continué à grimper, là, probablement que si c'est pas Montréal, il y a un club qui l'aurait payé. Parce qu'il y a une valeur pour certains clubs, là, Philippe, là. Pas pour tous les clubs à travers la Ligue nationale, mais il y a une valeur pour des clubs parce que les clubs qui sont anti-offensivement, qui vont avoir de la place un peu sur le plafond salarial, peut-être qu'ils vont être donner de la sécurité. Peut-être un petit peu moins d'argent qu'il y avait Pageau, mais peut-être qu'ils vont dire, bon, on va te prendre nous autres pour 7 ans. Parce qu'on a besoin d'un gars comme toi. Tu sais, nos joueurs de talent, là, on veut pas qu'ils fassent face toujours au meilleur trio. Puis s'il y a des journées où ça va un peu moins bien, ben c'est toi qui vas faire ce job-là.
Mais tu sors de la business de Montréal, puis ça, c'est peut-être pas l'avantage de Philippe Dano. Bruno, je veux t'entendre. Est-ce qu'il aurait dû signer au début, là, le 5 ans, le 6 ans, puis 5 ans?
C'est pas son avantage.
Ben, c'est parce que c'est à son avantage. Et dans un milieu où il peut se mettre en marché aussi à l'extérieur du hockey, ici, il y a ça. S'il s'en va ailleurs, il peut pas faire ça, là.
Je sais pas combien ce qu'il pourrait faire à l'extérieur, là, mais s'il donne un contrat de 3 ans à Montréal, là, puis il y en a 7 ailleurs, moi je me dis, il y en a je prends le 7. Là,
c'est sûr, business, c'est sûr. Là. Mais je pense qu'il aurait dû signer en début d'année. Bruno, je veux savoir ton point de vue.
Si c'est tout ça, c'est vrai, ça a été sur la table. Oui, je suis complètement d'accord. Dans le fond, je respecte le fait que peut-être il a misé sur lui-même, puis pensait avoir une autre bonne saison et que la production offensive allait continuer de s'améliorer. Ça a été ce qui est venu mettre un bâton dans ses roues. C'est sa production offensive. Puis quand tu regardes les équipes qui se bâtissent, là, de mettre autant d'argent sur un joueur qui ne t'aidera pas offensivement, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est difficile. Tu as besoin d'un joueur comme ça dans ton équipe. Pense au Nick Bonino, quand les Penguins de Pittsburgh ont gagné. Sauf que lui, il a signé un contrat pas mal plus lucratif, s'est retrouvé avec Nashville, puis ça ne marche plus. Parce que là, il n'y a plus d'argent autour pour l'encadrer puis aider offensivement. Fait que tu veux pas les équipes ont de la difficulté à se barrer avec un joueur comme ça, sachant que c'est un joueur de rôle que tu vas chercher, mais ton argent, t'en as besoin pour aller chercher des buts. Puis le Canadien a pris cet argent-là cette année pour aller chercher un Anderson, un Toffoli, un des gars qui ont rempli le filet pendant la saison, qui ont marqué pendant les séries. Puis tu vois, à la fin, il en manquait un peu de jus offensif. Fait que c'est dur pour n'importe quelle équipe qui aspirent, qui ont besoin d'un gars comme Philippe Dano, puis t'en as besoin d'un gars comme lui. Mais au niveau du pourcentage du cap, tu peux pas te commettre complètement puis juste penser, ben nous, on va gagner tous nos matchs 1-0. Faut que tu sois capable d'en laisser pour. Faut que tu ailles chercher des buts. Les équipes de la Ligue nationale calculent le pourcentage du cap. Partout où ça penche, c'est comment je réussis à insérer des buts dans ma formation. Fait que quand un gars qui joue comme Philippe Danault défensivement, mais qui produit comme Kopitar, comme Bergeron, comme Braden Point, c'est ça que t'as besoin.
T'as le meilleur des deux mondes. T'as le meilleur des deux mondes de cette façon-là. Messieurs, écoutez, le temps a passé déjà trop vite. On sera obligé de remettre ça, mais on n'a même pas parlé. Je voulais parler de Gabriel Landeskog. Imaginez-vous. Caroline, moi, j'avais fait des emplettes. On avait un nouveau club à Montréal. J'étais prêt pour ça. Malheureusement, on n'a plus de temps. Fait qu'on va se reprendre une prochaine fois. Benoît Brunet, merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy.
Bruno Gervais, merci. Salut, Bruno. Bon week-end.
Bye. Salut, bon week-end, la gang.
Merci, on s'arrête quelques instants pour retour. Vous savez que demain, le Canadien doit soumettre sa liste de protection en vue du repêchage d'expansion. Je vous raconte un peu comment ça va se passer. Restez là.